Tout de suite, le président de Guingamp est avec nous, Bertrand Desplats, dans l'Arc et Foot. Guingamp, c'est l'adversaire de Lyon dimanche à 17h.
Bonjour, président.
Bonsoir.
Ouh là là.
Bonjour, président. Et bonsoir aussi.
Bonsoir.
Jean-Louis, vas-y, parce que je n'entends pas bien le président.
Ah, bon, alors, président Desplats, on voulait parler un peu avec vous de ce début de saison guingampé qui, pour l'instant, se passe quand même pas trop mal, hein, avec 6 points pris sur les 4 premières journées. En plus, là, c'est à Lyon. Est-ce que vous allez encore être la bête noire de Lyon cette saison?
Bah, je ne sais pas si les années se suivent et se ressemblent dans le football. En tout cas, on y va en ayant... pour nous, l'ambition d'aller chercher un match référence qu'on n'a pas forcément eu depuis le début de saison. On a fait des bons résultats contre des équipes contre lesquelles il fallait absolument gagner, des équipes de notre championnat. On a gagné contre Metz et contre Strasbourg. Mais on a été sur le jeu un peu décevant contre Paris Saint-Germain et Nice. Donc on a à cœur de nous rattraper et de faire un match vraiment où on montre les qualités qui peuvent être les nôtres.
Ouais, cette équipe de Guingamp, coach, qui a gardé Antoine Comboiré bien sûr sur le banc de touche et qui semble partir avec les mêmes valeurs.
Oui, mais avec le même objectif aussi. Alors c'est sûr qu'après on parle entre la 8e et la 12e place, en espérant évidemment qu'on soit plus près de la 8e que de la 12e. Mais ce que fait Guingamp chaque année, ben c'est tout simplement remarquable par rapport aux moyens.
Ben voilà, président, vous voyez.
Mais c'est gentil. Ben c'est
pas seulement gentil,
c'est toujours gentil avec nous et je le remercie.
Mais c'est pas seulement gentil, c'est premièrement c'est sincère et deuxièmement c'est ce qui se passe.
Président, est-ce que vous m'entendez? Moi, est-ce que j'ai retrouvé.
Oui, très bien.
Ouais, président, votre l'association là est le recrutement des socios, ça marche toujours aussi bien?
Ouais, alors c'est une opération qui était limitée dans le temps, hein, puisqu'on l'a ouverte simplement pendant 2 mois, et on a aujourd'hui 15 206 supporters actionnaires, c'est-à-dire un peu plus de 2 fois la population de la ville de Guingamp. Donc on a, ouais, je crois qu'on a montré une manière moderne d'envisager nos relations avec nos supporters pour faire en sorte qu'ils soient reconnus, considérés, et on a beaucoup de marques d'affection, de soutien, de partage. De la part de toutes ces personnes qui sont des personnes vraiment simples, formidables, populaires, et ça renforce l'assise populaire de notre club.
Alors évidemment, c'est un modèle économique tout à fait différent de celui de votre véritable ami Jean-Michel Aulas.
Ouais, je crois que c'est un modèle. Alors, je vais parler de notre modèle déjà à nous, mais c'est justement un modèle économique différent. Mais vous noterez surtout que c'est un modèle économique. Ah, c'est le chemin qu'on a décidé de suivre et ça ne nous rend pas jaloux du succès des autres.
Alors sur Jean-Michel Aulas, je rappelle un peu quand même pour que tout le monde comprenne, vous êtes au cœur d'une passe d'armes avec le président lyonnais. Depuis ses propos sur les gros transferts du PSG notamment, vous avez fait une interview dans l'équipe où vous disiez que il avait peut-être du mal à comprendre les méthodes actuelles, qu'il était peut-être dépassé, une interview qui était d'ailleurs plutôt dure. Jean-Michel Aulas, ça lui a pas du tout plu, il a réagi d'abord sur Twitter. Vous avez calmé les choses hier, je pense que je rate pas d'épisode. Et puis aujourd'hui, en marge de la présentation de Ndombele, la recrue lyonnaise, il a insisté en disant Bertrand Desplats a franchi une frontière avec son article dans l'équipe. Ça fait 30 ans que je participe à la vie du football français, j'ai toujours été dans les institutions. Par ailleurs, j'ai une vie d'entrepreneur plutôt réussie. Il dit que Bertrand n'a rien démontré, contrairement à ceux qui ont démontré. Voilà. Et il dit, bon, quand même, je suis un homme courtois, donc je l'ai invité, comme j'invite tous les présidents français comme européens, à déjeuner avant le match dimanche. J'espère pouvoir lui donner quelques conseils qui lui permettront peut-être d'être moins arrogant dans le futur.
Bon, bah, écoutez, voilà, mais avec Jean-Michel, on prend l'habitude, d'accord, de toutes ces attaques que je vais qualifier de personnelles. C'est pas mon style. Donc moi, un style d'attaque. Souvent d'ailleurs assez méprisante, je ne peux renvoyer que toute l'estime et toute l'admiration que j'ai pour ce grand dirigeant du football. C'est la seule chose que je peux faire. Après, sur le débat des idées, ça m'intéresse, débat des idées, c'est formidable. Je maintiens évidemment la position qui est la mienne. Quand on est dans le football, quand on évolue dans le football, il faut savoir perdre, d'accord, bien sûr, même si on est tous compétiteurs et qu'on a tous envie de gagner. Il faut savoir reconnaître qu'on a des modèles économiques sont supérieurs sans avoir de mauvaise foi, sans invoquer à chaque fois des complots étrangers ou des menaces interplanétaires. faut simplement savoir se remettre en question. Personne, pas moi évidemment, ne peut remettre en cause le passé du grand dirigeant de Jean-Michel Aulas, mais là en l'occurrence, je parle d'aujourd'hui et je parle de demain, et à ce titre-là, je considère qu'il y a aujourd'hui une vague d'investisseurs de très grande envergure qui font du bien au football français. Et ça, qu'on s'appelle Jean-Michel Aulas ou pas, il faut savoir leur prénom.
C'est quand même paradoxal que ce soit un club au modèle économique dont on a parlé vante aujourd'hui la réussite et l'apport de Paris Saint-Germain et de la politique du Paris Saint-Germain plutôt que le contraire. C'est paradoxal, président. C'est peut-être cela qui choque le président Aulas.
Ouais, non, mais je pense qu'à la rigueur, c'est certainement la prise de parole. Alors, vous parlez de la mienne, mais globalement d'une forme de majorité silencieuse qui s'est peut-être exprimée à travers moi. Et certainement la plus crédible, parce que nous, on n'a pas... nous, on jalouse pas... on jalouse pas ceux qui sont meilleurs que nous. Quelque part, peut-être qu'on a l'habitude, malheureusement, qu'il y ait un certain nombre de clubs qui soient meilleurs que nous. Ça n'a pas été l'habitude de Jean-Michel Aulas sur les dernières années. Mais je pense que comme c'est parti, il va falloir quand même qu'ils prennent peut-être l'habitude de ne plus viser forcément la première et peut-être même la Champions League.
Puisqu'on est sur le fond, justement, qu'est-ce que vous pensez du contenu de la lettre qu'il a envoyée à Nasser Al-Khelaifi qui a été dévoilée dans la presse, où notamment il fait état de ses problèmes au président du PSG en disant: nous, on a investi sur un stade, sur des infrastructures, en tablant sur une possibilité d'aller en Ligue des Champions régulièrement. Là, désormais, on sait qu'il n'y a plus qu'une seule place pour tout le football français. Donc, pour nous, c'est compliqué et ça serait bien que tous les clubs français profitent de la manne financière des Qataris. Qu'est-ce que vous avez pensé du contenu de cette lettre ?
J'ai pensé beaucoup de choses. D'abord, il y a une forme de main tendue de Jean-Michel Aulas, parce que souvent quand il va trop loin, après il essaye quand même. Il nous a gentiment invités à déjeuner dimanche, et j'ai bien sûr accepté avec grand plaisir. Parce qu'il faut savoir accepter la main tendue quand une personne elle est trop loin en face et qu'elle fait cet effort-là. Donc c'est la première chose qu'il faut retenir. Il y a des mots assez sympathiques envers Nasser. Après, si vous voulez, sur le fond encore, là, sur le fond, il y a beaucoup de mauvaise foi, une fois encore. Donc il reproche aujourd'hui finalement à un État, alors effectivement, ou à un investisseur, qui a une forme étatique, d'investir massivement dans le football français, quand dans le même temps, lui, pour favoriser le désendettement de son modèle économique, il va chercher 100 millions d'euros de capitaux chinois. Moi, j'ai pas envie, si vous voulez, de dire que la Chine vaut mieux que le Qatar ou le Qatar vaut mieux que la Chine. J'ai pas du tout envie d'aller dans ce type de débat de bas-fond. Simplement, c'est vrai, aujourd'hui, le football français a besoin de capitaux étrangers pour continuer à progresser. Je le regrette, franchement, comme tout le monde, j'aurais préféré que ce soit des entreprises du CAC 40, j'aurais préféré que ce soit des investisseurs, des milliardaires français. Bien sûr que, comme tous les petits franchouillards, mais c'est le monde qui veut ça. Il faut être ouvert d'esprit.
Oui, président,
on peut conclure,
capitaine. Oui.
On peut rétorquer aussi, président, que dans le championnat le plus riche du monde, il n'y a pas forcément que des capitaux anglais dans les clubs anglais.
Non, mais il y a une majorité de clubs anglais qui aujourd'hui, et depuis beaucoup plus longtemps que les clubs français, sont détenus par des capitaux étrangers.
Oui, mais attendez, Jean-Michel Aulas n'a jamais dit « j'ai des problèmes avec les capitaux étrangers ». Il dit « j'ai un problème quand c'est un État qui est derrière », et donc avec une puissance presque illimitée.
Mais écoutez, on connaît bien Jean-Michel Aulas, je vous assure que quand c'était à l'époque Monaco, c'était d'autres soucis. Aujourd'hui, c'est le Qatar. Voilà. C'est pas le débat. C'est pas
d'accord.
Le débat. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire simplement, c'est que je ne vois plus aujourd'hui de dirigeants anglais prendre la parole pour s'émouvoir d'un club comme Chelsea, s'émouvoir d'un club comme Arsenal, comme Liverpool. Pourtant, regardez, les capitaux, c'est pas des capitaux anglais. C'est le football qui est devenu mondial, qui intéresse des investisseurs qui ont tous aujourd'hui le mérite, en tout cas, des investisseurs en France. Je pense notamment aux Parisiens, je pense aux Monégasques. Quand ils vont à la DNCG, d'accord, quand il y a des engagements à faire vrai que eux, ils ont 1 euro, 1 centime d'euro de dette auprès des organismes sociaux, de salaire impayé. Ils assument leurs engagements. On ne peut pas empêcher un investisseur de faire ce qu'il a envie de faire.
Merci beaucoup, Bertrand.
Et bon appétit, président.
Oui, on espère que le déjeuner va pas se résumer à un apéro, et que ça va aller quand même entre vous.
Je penserai à vous, messieurs, voilà.
Vous les connaissez, les dictons, ceux-là, sont nationaux, même en Bretagne, qui aiment bien châtient bien, ça doit être...
Exactement.
On doit le connaître.
Exactement.
Merci, Bertrand Desplats. Merci beaucoup. À bientôt, président de Guingamp, donc, invité par Jean-Michel Aulas.